France Inter.
Le journal Corinne Audouin.
Bonsoir à tous. 500 000 de signatures contre la loi Duplomb, c'est inédit. Pour la première fois, une pétition citoyenne franchit ce seuil qui permet la tenue d'un débat sans vote à l'Assemblée. Qu'est-ce que cela va changer? Explication dans un instant. Dans ce journal aussi, reportage avec des seniors qui, comme beaucoup de Français, ne partent pas en vacances. La libération d'un franco-américain détenu au Venezuela grâce à un accord avec les États-Unis. Un marathon en montagne pour les coureurs du Tour de France, une étape éreintante dans les Pyrénées, fatale à Remco Evenepoel. Et puis un marathon de théâtre au Festival d'Avignon, le mythique soulier de satin dans la cour d'honneur du Palais des Papes. La météo de demain, un ciel mouvementé et des orages, Magali Rochereau.
Oui Corinne, et un temps qui se dégrade encore à la mi-journée, sauf dans la région sud-est.
Prévision météo complète à la fin de ce journal.
France Inter.
500 000 signatures en 10 jours, c'est du jamais vu. La pétition contre la loi Duplomb a franchi le seuil qui ouvre donc la voie à un débat à l'Assemblée nationale. La loi contestée par les défenseurs de l'environnement prévoit, entre autres, la réintroduction d'un insecticide nocif pour les abeilles. Bonsoir Julien Nenny.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. Alors ces 500 000 signatures, qu'est-ce que cela va changer ?
D'un point de vue législatif, pas grand-chose. Le règlement de l'Assemblée est clair, la pétition n'a pas de force contraignante. Autrement dit, cette pétition, aussi massivement soutenue soit-elle, ne permettra pas d'abroger la loi Duplomb, comme elle le réclame. En revanche, si ces 500 000 signatures sont issues d'au moins 30 départements, un président de groupe ou de commission à l'Assemblée peut demander à la conférence des présidents que la pétition soit débattue dans l'hémicycle. Cette demande a d'ailleurs déjà été formulée. Boris Vallaud, le patron des députés PS, réclame, je cite, « l'inscription de cette pétition à l'ordre du jour de l'Assemblée dès la rentrée, c'est-à-dire au début de l'automne. Mais vous l'avez compris, si débat il y a, ce sera uniquement sur la pétition, donc pas sur la loi qu'elle dénonce. Reste qu'évidemment, un tel débat risquerait de remettre un coup de pression politique sur les députés favorables au texte, d'autant que quelques semaines avant, fin août, le Conseil constitutionnel aura décidé s'il censure ou non une partie de la loi Duplomb. C'est juste un mauvais moment à passer, relativise un député qui l'a voté, persuadé qu'à la rentrée, ce sera surtout le budget qui occupera les débats.
Et affaire à suivre donc, merci Julien Nenny. Retour au vert attendu demain sur les routes après un samedi rouge en ce week-end de grand départ. Mais c'est loin de concerner tous les Français. 1 sur 4 ne part pas en vacances, particulièrement les seniors. D'après une étude de l'Institut Ipsos, la moitié d'entre eux voyagent peu ou pas du tout. Reportage à la rencontre de quelques retraités à Saint-Denis, en banlieue de Paris. Benjamin Hilly.
Basilique de Saint-Denis.
Normalement, elle m'attend devant la basilique. Donc Nelly, ça vous fait combien? 74 ans?
Oui.
Retraitée modeste, on peut le dire?
Un tout petit peu au-dessus de 1000 euros.
Est-ce que ça libère un budget pour partir en vacances?
Non.
Vous passez votre été ici, dans les rues de Saint-Denis, à votre résidence?
On a la chance quand même d'avoir eu une municipalité qui a créé ce qu'on appelle la maison des seniors. On vient au marché, on achète des fruits, on fait une salade de fruits. Et après, il y a projection d'un film. Ça fait une journée pour 2 euros. Je suis jamais vraiment partie en vacances.
On est devant votre résidence senior.
Voilà.
Donc on va rencontrer vos voisins.
On va aller voir Raymond.
Raymond qui a 90 ans.
Voilà. Je devais partir dans l'Aveyron. Alors je voulais pas embêter mes enfants. Bah non, parce que j'ai des difficultés à marcher. C'est de la faute à personne. C'est la vieillesse.
Mais on peut pas les appeler là.
Allô, Chacha?
Oui, je suis ma petite fille, oui. On lui a envoyé une petite carte.
Raymond, vous avez vu, il y a une carte qui va arriver chez vous.
Voir régulièrement, lui font des courses quand il y a besoin.
Voilà, t'as raison, ma biche, c'est vrai, il s'occupe de moi.
Beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup dans sa résidence qui sont complètement seuls.
Oui, oui, c'est vrai. Au revoir, ma bichette.
Okay, bah, gros bisous.
Comment on raccroche, Raymond?
Voilà, toc, et hop.
Est-ce que ça fait claque?
Voilà, c'était Raymond, à qui on souhaite quand même de bonnes vacances. Reportage de Benjamin Hilly. Après une nuit émaillée de violence à Limoges, le maire demande des renforts de police. 9 policiers ont été légèrement blessés dans le quartier du Val de Laurence. Près d'une centaine de personnes ont jeté des pierres, des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Il n'y a aucune interpellation pour le moment. C'est le grand projet du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Regrouper les 200 narcotrafiquants considérés classés comme les plus dangereux dans deux prisons ultra sécurisées. À Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, à quelques jours du transfert des détenus, plusieurs avocats contestent ces placements. Benoît David est l'avocat de Mohamed Amra. Son évasion avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires. Lui ne conteste pas ce transfèrement. Mais l'avocat représente cinq autres détenus pour qui, estime-t-il, ce n'est pas justifié.
On conteste parce que les conditions prévues par la loi qui exige, d'après le Conseil constitutionnel, que la personne incarcérée entretienne toujours, depuis la détention, des liens avec la délinquance organisée, ce critère-là n'est pas rempli. Le fait d'avoir été condamné pour ces faits-là ou d'être mis en cause pour ces faits-là ne prouve pas qu'il y a encore des liens qui existent et qui sont exercés depuis la détention. En outre, les conditions de détention sont telles qu'elles nous apparaissent contraires à la dignité humaine. Pas d'activité particulière, pas d'accès au travail. La lumière des cellules est extrêmement diminuée par un système de baraudage et de caillebotis qui empêche d'avoir une lumière naturelle dans les cellules. Les hygiaphones systématiques avec leurs familles. Également, la limitation de possibilité d'accès au téléphone et de panne téléphonique maximum de 2 heures par semaine. Donc, c'est des conditions extrêmement dures de par leur cumul.
Maître Benoît David avec Delphine Evenou. Et ce recours n'est pas suspensif. En cas de refus, les détenus pourront saisir le tribunal administratif. Lui était détenu au Venezuela depuis le mois de janvier. Le franco-américain Lucas Hunter a été libéré ce matin avec 9 autres Américains en échange de 250 Vénézuéliens qui étaient détenus au Salvador sur demande des États-Unis. Il a donc bénéficié de cet accord de libération mutuelle entre le Venezuela et les États-Unis, un accord en contradiction avec la politique anti-immigration affichée par Donald Trump. Correspondance à New York de Loïc Loury.
En mars dernier, quelques semaines après son arrivée au pouvoir, Donald Trump avait fait expulser plus de 250 Vénézuéliens. Accusés sans preuve d'appartenir au gang Tren de Aragua, ils étaient depuis enfermés dans une méga prison du Salvador. Le président américain faisant de cette affaire la vitrine de sa politique anti-migrants. Hier, ce sont donc ces mêmes détenus qui ont retrouvé leur liberté contre celle notamment de 10 Américains enfermés au Venezuela. L'an dernier, en effet, Caracas avait commencé à emprisonner des ressortissants étrangers, en particulier américains, souvent accusés de complot afin de les utiliser, selon les experts, comme monnaie d'échange. Nicolas Maduro a-t-il actionné ce levier pour faire libérer ses propres détenus au Salvador, ou Donald Trump les avait-il fait enfermer pour que Caracas relâche ses 10 américains? L'un des deux a vraisemblablement été pris à son propre jeu. New York, Loïc Loury, France.
À Los Angeles, les circonstances du drame sont encore floues. Une voiture a foncé dans la foule dans un quartier très fréquenté. 30 personnes sont blessées, dont 7 dans un état critique. Le conducteur extrait de sa voiture par la foule a été blessé par balle et transporté à l'hôpital. Comment inverser la courbe des émissions de CO2? L'enjeu est capital pour limiter le changement climatique. Alors certains parient sur le captage de CO2, comme en Suède, où une compagnie énergétique est en train de construire l'un des plus grands site au monde. Reportage à Stockholm d'Otilia Ferret.
En termes simples, l'idée est de capturer le CO2 qui s'échappe lors de la combustion de biomasse. Le gaz sera ensuite transporté par bateau au large de la Norvège pour être enterré dans la roche sous-marine. Pour Anders Egelrød, le directeur général de Stockholm Exergi, ce procédé est nécessaire si la Suède veut atteindre son objectif de neutralité carbone en 2045.
Nous allons capturer 800 000 tonnes, soit la même quantité que celle émise par l'ensemble du trafic automobile de Stockholm pendant une année entière. Le captage n'est pas une alternative, c'est une nécessité. On vend des crédits carbone à des acteurs privés comme Microsoft, qui a signé avec nous l'un des plus grands accords de suppression de carbone jamais réalisé au monde pour compenser leurs émissions.
Mais la grande partie du financement vient d'aides et de prêts publics provenant d'un fonds de l'Union européenne et de l'État suédois. Pour Rolf Lindahl, porte-parole de Greenpeace Suède, cet argent pourrait être mieux dépensé.
Cette technique de captage, on voit ça comme une fausse technique et une distraction au réel changement que nous devons faire, à savoir entreprendre une révolution énergétique en nous débarrassant des énergies fossiles polluantes et en réduisant drastiquement nos émissions ici et maintenant.
Mais le projet de captage de dioxyde de carbone est déjà lancé et devrait être opérationnel en 2028. À Stockholm, Otilia Ferré, France Inter.
Et on l'attendait, cette étape reine du Tour de France entre Pau et Superbagnères avec 4 cols au programme. Étape remportée par le néerlandais Tymen Arensman. Et elle a tenu ses promesses entre brouillard, pluie et craquage. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et le Tourmalet a en effet été fatal à Remco Evenepoel.
Ouais, les géants des Pyrénées n'ont aucune pitié, ne font aucun cadeau. Le Tourmalet encore moins. Remco Evenepoel en est la première victime. Il n'aura même pas vu le brouillard dans l'ascension. Le Belge quitte le Tour dans les larmes en demandant aux caméras de s'écarter pour ne pas capter sa souffrance. Son coéquipier et ami Ilan Van Wilder ne s'y attendait pas.
C'est pas pour ça qu'on est venu. On a tous travaillé très dur pour être ici, lui aussi. Honnêtement, j'avais pas vraiment le feeling qu'il avait déjà décidé dans sa tête d'arrêter. Je pensais qu'il allait être un peu mieux peut-être et que peut-être, ok, qu'il allait perdre son classement, mais on pouvait aller pour les étapes alors. Mais j'avais jamais pensé qu'il l'aura abandonné.
Remco Evenepoel qui laisse un grand vide dans son équipe et au classement général. Troisième maillot de meilleur jeune désormais sur les épaules de l'Allemand Florian Lipowitz et le Français Kevin Vauclin qui sort des Pyrénées dans le top 5 quand même. Lenny Martinez, lui, a animé le début d'étape en allant chercher les points pour son maillot à poids.
Le plan, c'était de passer presque toutes les bosses en tête, sauf bon, la dernière, après, on allait voir, mais on a presque réussi le plan, donc je suis plutôt content, ça va. Ouais, honnêtement, c'était top. J'étais bien dans le Tourmalet, mais je me suis jamais mis dans le rouge. J'ai fait à mon tempo et voilà, ça m'a permis après d'être plus serein pour la descente et le reste. Et après, j'ai attendu le groupe pour la vallée. Ouais.
Lenny Martinez, meilleur grimpeur. L'autre belle surprise côté tricolore s'appelle Jordan Gégat aux portes du top 10. Ce soir, en revanche, toujours pas de victoire d'étape pour les Français sur ce tour. Les jours passent et se ressemblent.
Ça viendra peut-être. Merci Xavier Monferrand avec Hélène Langlois. Sport toujours, France-Allemagne en football. C'est toujours un match à enjeu. Ce soir, l'équipe de France féminine rencontre les Allemandes, quart de finale de l'Euro. Et même si les statistiques ne plaident pas en leur faveur, Julien Froment, vous êtes à Bâle en Suisse. Entouré de supporters des Bleus confiants.
Oui, et autour de moi, eh bien, énormément de drapeaux bleu, blanc, rouge, de maillots de l'équipe de France et des supporters qui, il faut bien le souligner, hein, c'est pas toujours le cas face à l'Allemagne, eh bien, des supporters qui sont très confiants avant d'affronter la Mannschaft. Je vous propose de les écouter.
On y croit parce qu'elles font un bel euro, on a très bien réussi la phase de groupe, on a terminé première de notre groupe, on est en pleine confiance.
On sent bien.
Contrairement à l'Allemagne qui n'est pas en pleine confiance.
Et on gagne contre l'Angleterre, championne en titre, franchement, ouais. On est bien. Hein.
Moi, j'ai vu le dernier match, j'étais impressionné. Et puis je pense qu'ils vont faire le même match aujourd'hui. Voilà, on va leur mettre une raclée. Puis voilà.
Et l'Allemagne a fait son temps, ça y est. Hein. On a des belles joueuses, des jeunes joueuses. Ça y est, c'est bon, c'est à notre tour hein, maintenant.
Allez les Bleus !
Et ils ont raison d'être confiants. La France reste sur une série de 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. En plus, toutes les joueuses sont disponibles pour disputer cette rencontre, dont la capitaine, la défenseuse Grijembok, qui avait manqué les 3 matchs de poule. Bref, vous l'aurez compris, tous les voyants sont au vert pour que les Bleus et les supporters vivent une soirée historique ici à Bâle.
Merci Julien Froment, France-Allemagne, c'est à 21h. Allez, autre performance pour les comédiens, mais aussi les spectateurs. À Avignon, où l'on aime les marathons de théâtre, le spectacle ce soir commence à 22h pour s'achever à 6h du matin. C'est le soulier de satin, la fresque de Paul Claudel, mise en scène par Éric Ruff avec la troupe de la Comédie Française. Succès de la saison à Paris, et ce soulier de satin repris dans la cour d'honneur du Palais des Papes en rappelle un autre. Il y a 38 ans, Didier Sandre jouait Rodrigue sous la direction d'Antoine Vitez. Et ce soir, il sera Pélage, le vieil époux de l'héroïne Prouèse. Ses souvenirs sont toujours vivaces. Stéphane Capron.
Je te regarde et cela me suffit, ô Prouèse. Ne t'en va pas de moi. Reste vivante.
De la version du soulier de satin d'Antoine Vitez, il reste deux éléments de décor. Deux figures de proue restaurées et qui trônent dans la cour de la maison Jean Villard. Et quand Didier Sandre les découvre, les images du soir de la première en juillet 87 lui reviennent en mémoire et les sanglots lui montent à la gorge.
Ces figurines si majestueuses ont vacillé, sont tombées. Il y avait un mistral d'enfer. Et le miracle de la première intégrale, le vent s'est apaisé, l'atmosphère était très douce, etc. La salle était debout. Excusez-moi, je fais beaucoup d'efforts pour oublier ces 37 ans, mais par bouffée comme ça me revient.
Cette pièce continue de hanter Didier Sandre qui, ce soir, sera dompté l'âge.
C'est extraordinaire de pouvoir jouer, moi, l'acteur, un acteur vieillissant, et ayant joué Rodrigue, pouvoir dire « j'ai été l'ouvrier d'un rêve », qui est une espèce de phrase bilan sur ce qu'a été Pélage et ce qui peut être aussi la mienne.
À 78 ans, Didier Sandre va une nouvelle fois faire résonner ce soir, dans la cour d'honneur, la poésie de Paul Claudel.
À la place du salut, vous ne pouvez lui donner que le plaisir.
Voilà Didier Sandre dans le soulier de satin au Festival d'Avignon jusqu'au 25 juillet. Et puis on a appris la mort d'une très grande voix de l'opéra, Beatrice Uria Monzón, cantatrice franco-espagnole, révélée dans le rôle de Carmen. Voilà, c'est trop court pour entendre la mezzo-soprano Beatrice Uria Monzón. Elle avait 61 ans, elle est morte des suites d'une longue maladie. Et on jette un œil sur le temps.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Corinne.
Encore un ciel bien instable.
Oui, demain, une nouvelle perturbation s'étire déjà au lever du jour, des Hauts-de-France à la Normandie. Elle glisse ensuite sur l'Île-de-France, le centre-Val de Loire et les Pays de la Loire, accompagnée de pluies soutenues, parfois orageuses et de rafales autour de 60 km par heure. Tandis que du Grand Est jusqu'au Pays Basque, la matinée reste lumineuse malgré quelques voiles en altitude. Du côté de la Bretagne, le ciel alterne entre nuages et bleus. Et au thermomètre, les minimales sont douces, de 14 à 19 degrés et de 19 à 23 sur les plages méditerranéennes.
Et l'après-midi, une grande partie du pays bascule sous les orages.
Oui, le soleil résiste encore sur les rivages de la Méditerranée, mais partout ailleurs, l'instabilité gagne du terrain et les averses deviennent fréquentes, parfois orageuses, notamment sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, mais aussi du Massif central jusqu'aux Pyrénées et au sud des Alpes. Les orages les plus intenses sont attendus entre l'Auvergne, le Limousin et le nord de la région Midi-Pyrénées, avec localement de fortes pluies, de la grêle et des rafales. Côté température, les maximales baissent légèrement en restant deux saisons. Météo France prévoit entre 20 et 25 degrés entre la Bretagne, les Hauts-de-France France et jusqu'au Poitou-Charente, 24 à 29 entre le Grand Est et l'Aquitaine, et jusqu'à 30 à 32 du côté de la Méditerranée.
Merci Magali Rochereau.